9h, 10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon dimanche. Dans un livre à paraître mercredi, écrit avec Carole, sa femme, Carlos Ghosn clame son innocence et crie au complot. Un complot de l'état-major de Nissan contre une fusion de la marque japonaise avec Renault. Il serait tombé dans un piège préparé de longue date et y aurait entraîné sa femme malgré lui. Dans un instant, ils pourront tous les deux s'expliquer depuis Beyrouth où ils ont fui la justice japonaise. Je recevrai ensuite Guy Sorman qui publie un dictionnaire des idées reçues de ce début de 21e siècle. Il l'a intitulé tout simplement « Mon dictionnaire du bullshit ». Un sacré programme. Carole et Carlos Ghosn, bonjour.
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 Vous êtes toujours au Liban, vous ne pouvez pas sortir du pays, ni l'un ni l'autre. Vous seriez arrêté par Interpol et livré à la justice japonaise. Un procès est ouvert au Japon avant Noël, il va durer plusieurs mois. Un autre doit commencer prochainement. Il y a en France plusieurs informations judiciaires en cours. J'ai sous les yeux le livre qui sort mercredi prochain aux éditions de l'Observatoire. Il est intitulé « Ensemble toujours ». Il est signé Carole et Carlos Ghosn. Pourquoi ce livre ?
Qui commence, moi ou Carlos ?
Vas-y, Carole.
Bon, il y a l'éditrice Muriel Beyer qui nous a sollicité et Carlos était contre. Personnellement, moi j'ai hésité et j'ai réfléchi. Après, j'ai dit en fait c'est une bonne idée de parler, de partager notre histoire. C'est comme une résilience après l'épreuve.
Carlos Ghosn ?
Écoutez, je dois avouer qu'au départ, j'étais plus que sceptique, mais Carole, très vite, a été convaincue que ce serait une bonne chose, pour plusieurs raisons. D'abord pour nous, puis aussi pour beaucoup de personnes qui partagent ce genre d'expérience. Je ne parle pas d'expérience identique, mais d'expérience semblable dans lesquelles on a en face de nous une situation totalement injuste et une situation dans laquelle vous souffrez un peu dans l'indifférence.
Ce livre se déroule de votre arrestation le 19 novembre 2018 à votre fuite fin décembre 2019, une année pendant laquelle vous êtes resté presque tout le temps séparé. La justice japonaise vous interdisait de vous voir et même de vous parler.
On peut dire que c'était un moyen de pression, c'est évident. C'est-à-dire que dès le départ, les procureurs japonais ont bien vu, au travers de la documentation qu'ils ont lue, au travers de la saisie des téléphones, des différents ordinateurs, que j'avais une relation avec mon épouse qui était extrêmement forte. Et ils se sont rendus compte qu'en essayant de fragiliser cette relation, ils pouvaient obtenir de moi des confessions qu'ils n'auraient pas pu obtenir par ailleurs. Donc c'était voulu, ils me l'ont dit, ils m'avaient dit dès le départ, écoutez, si obtenons de vous une confession, on s'en arrête là. J'ai dit qu'il n'en était pas question, ils ont dit, bon, on va s'attaquer à votre famille, et en premier à votre épouse. Donc les attaques contre elle ont commencé, et la séparation qui était voulue de connivence entre le procureur et le juge était flagrante.
Carole Ghosn, vous avez l'air d'avoir à la fois beaucoup souffert de cette séparation, mais en même temps, elle vous a rendu terriblement combative quand on vous lit, puisque c'est un livre écrit à quatre mains, si l'on peut dire. Vous y prenez la parole alternativement l'un et l'autre.
Oui, en fait, l'histoire de Carlos m'a changée. Je suis devenue une personne beaucoup plus forte et maintenant, j'avais un peu honte avant. Maintenant, j'ai plus honte. Si j'ai besoin d'appeler quelqu'un, je les appelle, je poursuis mon but. C'était très important pour moi de faire d'aider mon mari et je ferai tout de n'importe quelle façon pour l'aider. Donc oui, ça m'a changé.
Alors c'est un récit haletant, souvent terrifiant d'ailleurs, d'une descente aux enfers. C'est un peu le Midnight Express d'un grand industriel et de son épouse. Du jour au lendemain, Carlos Ghosn, vous qui aviez été à la tête de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, le groupe numéro un mondial de l'automobile, vous n'avez plus rien, brusquement. Vous n'êtes plus qu'un numéro, sans contact avec l'extérieur. Rien ne vous avait préparé à cela.
Non, pas du tout. Évidemment, je n'étais pas du tout préparé à cela, donc le choc était terrible. Je le décris d'ailleurs d'une manière assez réaliste. Et le choc est d'abord dû à l'incompréhension. Je n'arrivais pas à comprendre la situation dans laquelle je me suis trouvé tout d'un coup. Et quand on m'a communiqué le contenu des déclarations de Hiroto Saikawa à la télévision le jour même de mon arrestation, quand j'ai vu par l'intermédiaire, enfin que mes avocats ainsi que les ambassadeurs des différents pays dont je suis citoyen m'ont communiqué le contenu des déclarations qui étaient faites, des communiqués qui étaient faits, je me suis rendu compte à quel point ceci était une machination qui manifestement a été préparée depuis un certain temps. Et bon, les faits actuellement le prouvent, les documents, les déclarations, les témoignages, tous les faits qui se sont déroulés depuis le novembre 2018 l'illustrent.
Vous ne savez tellement pas ce que l'on vous reproche, Carlos Ghosn, que d'après ce que vous racontez, hein, vous comptez prendre l'avocat de Nissan pour qu'il vous sorte de là. Vous ne comprenez pas que l'entreprise que vous avez sortie du gouffre est devenue votre pire ennemi, que celui que vous avez préparé à vous succéder vous reproche à présent votre train de vie, vos nombreux appartements, l'usage du jet privé de l'entreprise, etc. etc. C'est lui hein, qui, à ce moment-là, est à la manœuvre.
Oui, mais je vous signale que l'arrestation qui a eu lieu en novembre comportait une charge, une accusation. Tout le reste a été fabriqué, faisait partie d'une campagne de dénigrement qui avait été soigneusement préparée depuis des mois, puisque maintenant nous avons des documents qui le prouvent, essentiellement pour éviter une réaction de la part de la France, de la part du gouvernement français, de la part de l'opinion publique française.
Pour ne pas qu'elle vous soutienne.
Évidemment, évidemment. Mais maintenant, nous avons des documents. Nous avons des documents qui datent de mai 2018, qui ont été présentés, heureusement pour nous d'ailleurs, actuellement dans le jugement de Greg Kelly, qui se déroule au Japon. Des documents qui ont
Greg
été versés
Kelly,
par les procureurs eux-mêmes.
Qui travaillaient avec vous. Hein.
Exactement. Sur des e-mails qui ont été échangés le jour de mon arrestation entre plusieurs responsables de Nissan pour bien mettre en place les scénarios pour contrecarrer une éventuelle réaction de la part du gouvernement français ou de la part du conseil d'administration de Renault. Mais évidemment, pour eux, tout s'est passé très bien, pour eux. Malheureusement, pour moi, il n'y a pas eu de réaction. Et je vous signale que l'accusation pour laquelle j'ai été arrêté, j'avais du mal à la comprendre. C'est la seule accusation, d'ailleurs, pour laquelle Greg Kelly est actuellement en jugement au Japon, c'est-à-dire ne pas déclarer une rémunération qui n'avait été ni décidée ni payée, ce qui était quand même déjà difficile à comprendre. Et pour moi, vous l'imaginez, ayant été arrêté, c'est de comprendre comment je peux me retrouver en prison au Japon pour une rémunération qui n'a été ni décidée ni payée, c'était un petit peu difficile.
On fait une pause, Carole et Carlos Ghosn, on se retrouve juste après, j'ai encore beaucoup de questions à vous poser. Nous sommes avec Carole et Carlos Ghosn, qui publient Ensemble toujours, le livre sort mercredi aux éditions de l'Observatoire, ils sont tous les deux au Liban. Carlos Ghosn, au même moment, et ça c'est Carole qui le raconte dans le livre, Renault aussi vous abandonne. L'avocat de Renault, non seulement vous avez l'impression qu'il travaille contre vous, mais Carole, elle a l'impression qu'il lui ment carrément. Alors pourquoi est-ce que Renault aussi se retourne contre vous?
Écoutez, quand on parle de Renault, il faut parler d'entités très précises, c'est le conseil d'administration de Renault. On ne parle pas de l'ensemble du personnel de Renault ou d'une autre entité. C'est le conseil d'administration dans lequel, comme vous le savez, un certain nombre d'actionnaires importants sont représentés. Le lâchage a eu lieu, c'était clair. Il a eu lieu à un moment très précis. J'ai pu reconstituer l'historique du lâchage, notamment par l'intermédiaire de témoignages qui m'ont été faits par des gens qui ont joué un rôle dans ce lâchage. Et qui, bon, heureusement pour eux, ont quitté depuis l'entreprise, donc ne sont plus soumis à cette règle du silence. Je sais qui sont les acteurs du lâchage, qui sont les différentes réunions où ça s'est produit. Donc il y a eu beaucoup de choses qui expliquent cette évolution et qui aboutit au bout d'un certain moment à une situation dans laquelle on a dit que j'avais démissionné de Renault. Alors vous imaginez, moi j'étais en prison. Soumis à un bombardement médiatique, à une accusation que je ne comprenais pas, et on me dit tout d'un coup, on me demande de démissionner, ce que je n'ai pas fait, je suis parti à la retraite. Donc pour l'instant, il y a une bataille autour de cette notion de départ à la retraite et démission, qui montre exactement la situation dans laquelle je me suis trouvé, où finalement il y avait une attaque qui était menée de front contre moi, et vis-à-vis de laquelle je n'ai été défendu par personne. Je vous rappelle que quand j'étais au Japon, je n'y étais pas en tant que touriste brésilien ou libanais, mais en tant que chef d'entreprise français, à la tête d'une grande entreprise française, doté d'une mission qui m'avait été donnée officiellement, au départ par le gouvernement français, puis par le conseil d'administration de Renault, de faire que l'alliance entre Renault et Nissan et Mitsubishi soit indétricotable, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas revenir en arrière. C'était ça ma mission. Et donc, c'est effectivement l'une des raisons pour lesquelles on m'a écarté d'une manière dans laquelle il n'y avait aucun risque que je puisse revenir en commande.
Carole Ghosn, vous vivez cela à plusieurs milliers de kilomètres de distance. Hein, ce bombardement médiatique, vous en êtes témoin. Vous vous apercevez que les hommes de Nissan sont entrés illégalement dans vos différents domiciles, y compris au Liban, et ont changé les serrures partout, sauf dans votre appartement parisien. Pourquoi n'allez-vous pas tout de suite au Japon ?
Parce que, premièrement, l'avocat de Carlos qui était au Japon, le japonais nous a dit, vous venez pas, vous voulez mêlez pas, vous ne parlez pas de notre système judiciaire, vous respectez les lois au Japon. Et sinon, si vous ne faites pas ça, votre mari, il va pas sortir de prison. Donc, on a respecté les règles des japonais, de l'avocat japonais, pour être plus clair.
Ce livre, c'est un véritable réquisitoire contre le système judiciaire japonais. Que lui reprochez-vous exactement, Carlos Ghosn ?
Oh, écoutez, c'est un système de l'otage. Le terme ne vient pas de moi, il vient des Nations Unies. D'ailleurs, je vous signale qu'il y a eu une position des Nations Unies, dans mon cas, qui dit que l'arrestation avait été arbitraire, que tous mes droits ont été violés, qui ont demandé une enquête au Japon de comment ça a pu se produire, qui ont demandé aussi qu'il y ait une sorte de rectification du tir. Évidemment, le Japon a dit qu'il n'allait pas en tenir compte par l'intermédiaire d'un de ses ministres. Mais le système de l'otage qui consiste à obtenir une confession, qui est d'ailleurs obtenue dans 99,4% des cas, c'est-à-dire que dès qu'un procureur vous a à l'œil, il gagne à 99,4%. Donc il n'y a que 0,6% des cas qui échappent. Donc moi, j'ai eu la chance de pouvoir sortir de ce carcan. Par contre, il faut quand même se rappeler qu'il y a des milliers de personnes, dont beaucoup d'étrangers, qui subissent ce système aujourd'hui. C'est un système qui est brutal, qui ne vous donne aucune chance de vous défendre. Et ce qui est vraiment choquant, c'est qu'au moment où moi je subissais cette épreuve, j'ai entendu des responsables officiels français dire qu'ils faisaient confiance à la justice japonaise, alors qu'ils savaient très bien comment ce système de justice opère et quelles sont les méthodes que les Japonais mettent en pratique pour obtenir des confessions quand ils ont décidé que vous étiez coupable.
Mais pouvait-il dire autrement, puisque c'est au président de la République que vous faites allusion, au ministre de l'économie et des finances, pouvait-il dire autre chose ?
Je ne sais pas ce qu'il pouvait dire, mais moi ce que je peux vous dire, c'est que j'ai appris par ailleurs que le jour de mon arrestation, l'ambassadeur des États-Unis au Japon a communiqué à l'ambassadeur de France au Japon en disant si M. Ghosn était le patron de General Motors, il ne serait pas resté arrêté 24 heures, on l'aurait rapatrié aux États-Unis et si vraiment il y a des problèmes, à ce moment-là, on en discute dans son pays. S'il a commis des erreurs, s'il a commis des choses qui ne sont pas acceptables, à ce moment-là, nous traitons ce cas. Et je dois dire que même le Premier ministre japonais, M. Abe, a signifié au cours d'un entretien qu'il a fait en disant « j'aurais bien voulu que cette affaire se traite au niveau du conseil d'administration de Nissan » et ne soit pas soumise à la justice japonaise. Ça, c'est le Premier ministre japonais qui le fait et pas un responsable français.
On fait une autre pause et on se retrouve tout de suite après. Nous sommes toujours avec Carole et Carlos Ghosn qui se trouvent toujours à Beyrouth. Carole Ghosn, pendant tout ça, vous êtes au départ, vous êtes en France, vous ne recevez aucun coup de fil ni de Nissan, ni de Renault, ni du gouvernement, au fond, de l'État français qui est actionnaire de Renault. Vous tentez de les joindre, ils ne vous répondent jamais.
Oui, non, ils me répondaient au début, après j'ai écrit une lettre et j'ai eu aucune réponse. Après, il y avait un moment, le GDD a dit que j'ai écrit une lettre et j'ai pas eu une réponse. Et deux jours plus tard, le gouvernement français m'envoie une lettre en me disant « on fait tout pour votre mari » et c'était tout. Et c'est la seule chose que j'ai entendue d'eux.
Mais au même moment, il y a beaucoup d'articles dans les journaux, il y a des accusations de plus en plus nombreuses. On vous accuse, Carlos Ghosn, d'abus de biens sociaux, de fêtes au château de Versailles, il y a des soupçons de fraude fiscale. De ce fait, si l'on avait su que le président ou le gouvernement ou un membre du gouvernement en même temps tentait de vous secourir, ça n'aurait peut-être pas été compris par les Français. Qu'en pensez-vous?
Oui. Mais évidemment, je dirais que c'est difficile de pas défendre quelqu'un qui est innocent. Donc quelque part, trouver des raisons pour lesquelles on dit bon, on peut pas le défendre parce qu'il y a des soupçons là-dessus. Bon, comme vous le savez, il y a des juges d'instruction qui vont venir m'interroger là-dessus. J'aurai le loisir d'expliquer les raisons de toutes ces accusations. Je vous en signale une seule d'ailleurs, puisque quand vous parlez de soupçons fiscaux, le soupçon fiscal, il est basé sur un seul élément, c'est où était ma résidence fiscale. Or, en 2012, j'ai annoncé à l'administration française que je changeais de localisation de résidence fiscale en passant en Hollande, où se trouve d'ailleurs le siège de l'Alliance. 2012. Et j'apprends en 2019, sept ans après avoir payé des impôts en France, en tant que résident hollandais, c'est-à-dire que tous les revenus que je touchais de Renault étaient imposé en France, j'ai payé tous ces impôts, il n'y a pas de discussion là-dessus. Maintenant, ils reviennent en 2019, au moment où moi j'étais emprisonné au Japon, me dire « Ah, mais vous n'étiez pas résident en Hollande, vous êtes résident en France. » 7 ans après, au moment où je suis en prison, ça paraît quand même assez louche.
Carole Ghosn, vous allez retrouver enfin votre mari au bout de plusieurs mois, puisqu'il a été libéré sous caution au mois de mars. Vous arrivez au Japon, vous avez dû vous trouver un appartement parce que vous n'avez plus rien au Japon à ce moment-là. Vous êtes évidemment très surveillé, il y a une caméra dans le couloir. On vous suit quand vous sortez, mais enfin vous pouvez aller n'importe où. Et vous dites que pour la première fois, vous avez l'impression que c'est vous qui le protégez désormais, alors que jusque-là c'était l'inverse, c'était lui qui vous protégeait.
C'est vrai, oui, je sentais... En fait, bon, j'avais besoin de lui, mais lui aussi, je sentais qu'il avait vraiment besoin de moi. C'est la première fois qu'il, qu'aussi il montrait ses sentiments que lui, il a besoin de moi. Donc oui, c'était en fait, des fois quand un couple souffre, il y a des moments où on voit la réalité du couple. On s'est montré sans faire une... Je ne sais pas comment dire. Oui, sans artifice, c'est ça.
Vous pensiez attendre le procès comme ça, mais Carlos Ghosn est de nouveau arrêté par l'unité oui. spéciale qui travaille pour le parquet japonais. On lui reproche quoi à ce moment-là et pourquoi rafle-t-on votre ordinateur, vos lettres, les photos de vos enfants que vous ne reverrez jamais?
Et mon passeport.
Votre
pourquoi
passeport.
Je pense que c'était une façon de nous intimider et de mettre de la pression sur Carlos. Je pense que c'est leur façon et ils utilisent la famille pour mettre la pression pour Carlos qu'il parle, qu'il fait ce qu'il veut, qu'il signe des papiers. Même moi, il y avait des papiers en japonais. Il voulait que je signe tous ces papiers. Et je disais, je ne veux pas signer, je ne comprends pas le japonais, je ne vais rien signer. Et ils insistaient et ils devenaient impatients avec moi. C'était vraiment des moments que c'est comme un film ou quelque chose, un cauchemar. D'être avec tous ces Japonais dans une petite pièce et ils cherchaient tout, même ils prenaient des cartes de visite du coiffeur, ils prenaient des photos de tout ce que j'avais, ils ont pris des photos. C'était.
Et aujourd'hui, c'était... il y a un mandat d'arrêt d'Interpol contre vous, hein?
Oui, il y a. Oui, mais c'est une autre. C'est en fait, je trouve que c'est injuste et. Et ils font tout ça pour mettre de la pression sur Carlos et je pense aussi pour me punir parce que j'ai critiqué leur système judiciaire.
À quel moment décidez-vous de vous enfuir parce que vous avez été de nouveau arrêté, votre femme est rentrée en France, puis vous serez libéré avec l'interdiction de lui parler, vous restez à Tokyo à ce moment-là et puis vous allez vous enfuir soudain?
Premièrement, je me suis aperçu au bout de plusieurs mois et de 7 ou 8 tentatives que j'avais faites auprès du juge de pouvoir communiquer avec mon épouse ou voir mon épouse, qu'elle puisse me rendre visite au Japon, c'était systématiquement non. Et les avocats m'ont finalement dit, écoutez, habituez-vous à l'idée que vous ne pourrez pas la voir avant le dernier jugement qui aura lieu pour vous, c'est-à-dire on était dans une perspective 3 ou 4 ans. Ça, c'était la première raison. La deuxième raison, c'est que nous avions demandé au cours des sessions de préjugement avec le juge et les procureurs, j'avais demandé si on pouvait pas, parce qu'il allait y avoir 2 jugements, un pour la raison pour laquelle j'avais été arrêté, 2 pour les autres accusations, s'il pouvait pas se faire de manière simultanée et pas du tout en série, c'est-à-dire qu'il y a un premier jugement puis un deuxième. Au départ, le juge était très sensible, puis après, au bout de 2 mois, il est revenu en disant que c'était une charge de travail trop importante pour les procureurs, ils ne pouvaient pas le faire. Ça, c'était 2. Et troisièmement, quand on demandait que normalement nous avons droit à une certaine vitesse de jugement, puisque j'étais en dehors de mon pays, j'étais séparé des principaux membres de ma famille, dont l'essentiel était d'abord ma femme, ils étaient totalement indifférents et il m'avait dit que finalement, je voyais la perspective dans laquelle le premier jugement ne commencerait pas avant 1 an. Et d'ailleurs, celui de Greg Kelly n'a commencé qu'en septembre 2020, c'est-à-dire pratiquement 9 ou 10 mois après évasion du Japon. Donc quand je me suis aperçu que, 1, il n'y aurait pas de jugement rapide, 2, que tout serait fait pour me séparer de mon épouse pendant une période très longue, et 3, que finalement le juge faisait exactement ce que les procureurs lui disaient, je dis, c'est très mal barré, hein, je dirais que mes avocats eux-mêmes me disaient, écoutez, nous ne pensons pas que vous aurez un jugement équitable, par contre nous avons suffisamment d'éléments en main pour que vous soyez en fin de compte acquitté. Il fallait vraiment un acte de foi pour le croire. Donc à ce moment-là, j'ai décidé de partir.
Comment voyez-vous l'avenir aujourd'hui ?
Oh, c'est un avenir, évidemment, il y a une partie, un combat non seulement personnel pour récupérer ce qui peut être récupéré de ma réputation et de mes droits, mais aussi un combat qui est celui d'un système dans lequel je suis tombé, qui est le système de l'otage japonais, parce que je ne pense pas qu'à nous, je pense aussi à des milliers, centaines de milliers de personnes qui passent par ce système aujourd'hui au Japon, et pour lequel il y a beaucoup de Japonais qui sont, je dirais, sont hostiles. J'ai rencontré beaucoup de responsables politiques, d'avocats au Japon qui veulent changer le système japonais, parce que le système, que c'est une honte pour le pays, et que dans tous les cas, c'est l'un des principaux handicaps à son développement, à sa reconnaissance comme étant une grande puissance démocratique, comme ils le disent. Donc je pense que ça, c'est un combat qui vaut la peine d'être mené. Je ne l'ai pas choisi, il a été imposé, mais je ne vais pas échapper à ce combat.
Et vous, Carole Ghosn, comment voyez-vous l'avenir ?
Je vois l'avenir avec Carlos et j'espère qu'il va pouvoir établir sa réputation et qu'avec le temps, la vérité va sortir.
Je vous remercie. Je vous remercie tous les deux d'avoir répondu à mes questions sur Europe 1. Ensemble toujours, c'est le titre de votre livre. Il paraît mercredi aux éditions de l'Observatoire. Merci encore. On se retrouve après une pause avec Guy Sorman.
Europe 1, 9h-10h, c'est arrivé demain.
Bonjour Guy Sorman. Vous avez beaucoup écrit sur la richesse des nations, sur le libéralisme, sur la mondialisation, sur les vrais grands penseurs de notre temps. Aujourd'hui, vous sortez mon dictionnaire du bullshit chez Grasset. C'est quoi le bullshit ?
Ah, ben le bullshit, c'est le bullshit. Enfin, j'introduis le mot, j'essaye, pour enrichir la langue française, parce qu'il n'y a pas d'équivalent. On dit quelquefois « vérité alternative ». Boniment. Enfin, le bullshit, si vous voulez, c'est une idée reçue, fausse, mais reçue. Mais encore une fois, comme il n'y a pas de strict équivalent, je pense qu'il faut introduire le mot en français. D'ailleurs, il apparaît de plus en plus.
Mais Flaubert faisait son dictionnaire des idées reçues, on avait tous les mêmes idées reçues et tout le monde se reconnaissait dans les idées reçues de Flaubert. Parfois même un siècle après, on s'y reconnaissait encore. Le bullshit, c'est autre chose. C'est pas forcément... On ne partage pas tous le même bullshit.
On partage pas mal de bullshit quand même. Enfin, si vous voulez, Flaubert avait fait un recueil des idées reçues, ce qu'il appelait les idées chic et reçues. Donc, le bullshit, ça reste quand même les idées chic et reçues. Enfin bon, là, j'en cite quelques centaines dans le livre, mais en général, ce sont des pensées uniques et rarement contestées. Oui. Si je vous dis, par exemple, le gluten empêche de digérer, 99% des Français vont répondre oui, c'est une idée bullshitique parce qu'elle est fausse, mais elle est acceptée par tout le monde. Je prends une idée volontairement non politique.
Pourquoi est-elle fausse? Profitez-en, dites-le.
Bah, le gluten, vous avez une personne sur 100 millions qui est allergique au gluten. Bon. Et l'idée s'est développée à partir d'un livre aux États-Unis, puis c'est venu en France disant que le gluten était mauvais pour la santé. Donc maintenant, vous avez du zéro gluten partout. Et alors, ça, c'est vraiment la pensée bullshitique. Vous pouvez acheter une baguette de pain sans gluten. Or, on ne peut pas faire de pain sans gluten.
Non, en général, c'est impossible. Mais quand vous attaquez, par exemple, les institutions de la Ve République, là, c'est déjà plus politique, plus compliqué. Oui. Vous dites qu'elles ne sont pas si efficaces qu'on le dit. Faute d'espace pour la négociation, les réformes avortent. Le status quo l'emporte. Au fond, le parlementarisme du début de la Troisième République conduisait à des compromis. C'est comme ça qu'on a forgé des lois qui nous gouvernent encore, 100 ou 150 ans plus tard, hein, sur la laïcité, sur l'école, sur la liberté de la presse. Il n'adviendra pas la même chose avec les lois votées sous la Ve République.
Prenons, vous avez cité la laïcité, qui est vraiment le résultat d'une négociation, une négociation parlementaire. L'Union européenne a été inventée, créée par la 4e République, dont on dit autant de mal, et au terme d'une longue négociation. Si vous regardez le bilan de la 5e République, j'ai essayé de le faire président par président. Il ne reste pratiquement rien. C'est-à-dire que vous demandez Chirac, il était combien 12 ans au pouvoir. Chirac, c'est quoi? Bon, la suppression des services militaires. Hollande, 5 ans, rien. Et ainsi de suite. Donc, c'est la preuve. Le fait qu'on ne puisse même pas fixer un bilan par président est la démonstration même que ce régime est un régime paralytique.
Sur Colbert et le colbertisme aussi, vous êtes alors plus sévère à l'égard du colbertisme qu'à l'égard de Colbert, dont tout le monde, enfin dont beaucoup de gens aujourd'hui voudraient déboulonner la statue.
Bon, écoutez, Colbert était de son temps, c'est une canaille. Bon, c'est une canaille, mais à l'époque, il était normal que les ministres s'enrichissent et enrichissent leur famille. Donc la statue de Colbert, elle marque son temps, ça ne me gêne pas particulièrement. En revanche, ce que l'on devrait dévisser, c'est le colbertisme. C'est l'idée selon laquelle la fermeture des frontières, la protection nationale et l'intervention systématique de l'État fait une bonne économie. C'est ce qu'on appelle le colbertisme. C'est ce dont on a hérité. Il n'y a pas de statut, on ne peut pas la dévisser. Donc il faut dévisser intellectuellement, je dirais, dans les écoles, par exemple, ce qu'on appelle le colbertisme.
Vous dites que Colbert est carrément responsable du fait qu'on a pris un siècle de retard dans la révolution industrielle par rapport aux Anglais en France.
Oui, Colbert pensait que s'enrichir, c'était accumuler des sous dans les coffres de l'État. Les Britanniques ont compris que s'enrichir, c'était développer les échanges, faire en sorte que tu deviennes riche pour que je devienne riche. Les Français ont mis un siècle pour accepter cela.
Le communautarisme, il est bien vu de tonner contre, comme disait Flaubert dans son dictionnaire des idées reçues. Vous, non?
J'aime bien le... Bon, quand Flaubert m'a inspiré tout au long du livre, mais j'ai essayé de l'actualité, il dit toujours tonner contre. J'adore cette expression. Il dit la Légion d'honneur, tenez contre, essayez de l'avoir. L'Académie française, tenez contre, essayez d'y entrer.
Bon. Tenez contre, ça veut dire qu'il est bien vu d'être contre.
Exactement.
Hein, et de le dire haut et fort.
Voilà. Alors, le communautarisme, ça, c'est le type même de la pensée bullshitique. C'est-à-dire que le communautarisme, ça n'existe pas. La quasi-totalité des immigrants en France souhaitent s'intégrer dans la société française. On leur rend la vie difficile parce qu'on les loge dans des ghettos pourris, on les met dans des écoles misérables, on les traite d'islamo-gauchistes à l'occasion. C'est-à-dire qu'on fait tout pour les empêcher de devenir français à part entière. On tord l'idée de laïcité pour détruire leur foi religieuse dans laquelle ils ont absolument droit. Donc on a inventé ce concept de communautarisme qui n'existe pas, il n'y a pas de communautariste. Pour dire qu'on n'est pas raciste. Enfin, tout ça, c'est une manière de dissimuler. Alors, la pensée bullshitique, en règle générale, c'est une espèce de paravent pour dissimuler ce que l'on pense vraiment et qui n'est pas dissible. Si je le dis derrière le paravent du bullshitisme, je suis pour l'immigration contre le communautarisme, c'est extrêmement commode et malhonnête.
Alors, il y a beaucoup de petits articles qui sont consacrés à l'écologie, évidemment. Le commerce dit équitable, par exemple, pour vous, c'est du bullshit.
Ah, c'est pas pour moi, c'est pour les victimes. C'est-à-dire que là, je cite un certain nombre d'économistes africains qui ont constaté que les grosses sociétés multinationales se sont emparées de ce terme qui est magnifique, commerce équitable. On ne peut pas être contre le commerce équitable. Sauf que le commerce équitable, il est en vérité monopolisé par des très grosses entreprises mondiales du type Nestlé et que le paysan de base n'a pas les moyens de faire du commerce équitable. Et donc, il est mis hors circuit. Si bien que chaque fois que vous achetez équitable, vous appauvrissez un paysan africain.
Pire encore, Guy Sormand, vous dites que le sac en papier, le sac en coton réutilisable avec lesquels on fait nos courses, tout en sauvant la planète, sont beaucoup moins écolos que le sac plastique en polyéthylène léger et transparent.
Ben ça, j'y peux rien. D'ailleurs, la Californie, qui est toujours en avance d'un tour en matière d'écologie, aujourd'hui ne permet dans les grandes surfaces que le sac en polyéthylène et interdit le sac papier et le sac en tissu après avoir fait le contraire. Parce que l'erreur que l'on commet souvent en écologie, et là encore c'est la pensée bullshit en action, c'est qu'on ne voit que le produit final. Le papier c'est chouette, le tissu c'est chouette et le polyéthylène c'est absolument redoutable. Simplement on oublie de remonter la filière dans les deux sens ou de la descendre et de faire un bilan global de ce que va coûter en termes écologiques la fabrication et l'élimination d'un produit. C'est vrai pour tout, hein. C'est vrai pour la voiture électrique, c'est vrai pour l'éolien, etc. Donc je suis ni pour ni contre, je fais le bilan global. Donc le bilan global fait que si je veux être un bon écologiste respectueux de la nature, il se trouve que je dois utiliser un sac en polyéthylène parce qu'il consomme moins d'énergie et il est plus facile à stocker par la suite.
Le sac en polyéthylène, c'est bien le petit sac en plastique transparent.
C'est le sac
qui pèse rien qu'on nous donne.
Qui pèse rien qu'on a mal fou à ouvrir, vous savez, pour y ranger ses tomates et dans les supermarchés, mais que vous jetez. Donc, en plus, en période de pandémie, et c'est une des raisons pour laquelle aussi la Californie l'a rendu obligatoire, en période de pandémie, le fait qu'il ne soit pas réutilisable et freine le virus. Alors que le sac en papier, qui paraît écologiquement sympathique, si vous voulez, transporte le virus.
On fait une pause et on retrouve Guy Sormand et ses bonnes nouvelles juste après. Mon dictionnaire du bullshit, c'est le nouveau livre de Guy Sormand qui vient de paraître chez Grasset. Et alors parmi tout ce bullshit que vous dénoncez, il y a le problème des baleines, le fait qu'elles risquent de disparaître. Vous avez la solution, vous dites que c'est parce qu'elles n'appartiennent à personne.
Je n'ai pas la solution. C'est-à-dire comme, encore une fois, le bullshit, c'est la négation du vrai qu'on remplace par une vérité alternative qui est plus sympa. Bon. Donc, ne pas chasser les baleines, c'est sympa. Chasser les baleines, c'est l'horreur. Bon. Mais si je rétablis les faits, donc si je suis anti-bullshit, je constate que la baleine est un mammifère comme tous les mammifères et que quand on élève des mammifères en troupeau, eh bien, c'est une manière de maintenir un équilibre écologique et de préserver la race. Imaginez que les vaches soient à l'état sauvage, comme les baleines. Probablement, il n'y aurait plus de vaches. Bon. Et donc, le fait que l'on protège les baleines détruit l'équilibre écologique. Si les baleines étaient privatisées, on aurait des troupeaux de baleines comme on a des troupeaux de vaches. Encore une fois, ce n'est pas, ma préférence. Je veux dire, le bullshit, c'est sympa, c'est chic, mais c'est faux.
Mais est-ce que là, vous ne faites pas du bullshit libertarien, Guy Sormand? Si on privatisait tout, il n'y aurait plus de problème. Les trottoirs seraient toujours propres. Il n'y aurait plus de pickpocket parce que leurs propriétaires, les propriétaires des trottoirs, se chargeraient d'y faire régner l'ordre et la beauté.
Non, mais là...
C'est un peu le bullshit libertarien, ça.
Alors, je dis d'emblée dans l'introduction que je lutte contre les idées reçues parce qu'elles sont chiques et fausses, mais je les remplace par mes idées reçues qui probablement quelquefois sont fausses. Donc je suis tout à fait d'accord pour cet échange. J'ai souvent préconisé des idées bullshitiques et fausses. Je suis prêt à faire mon autocritique. C'est la grande différence entre le bullshitisme et l'état cristallin pur, si vous voulez, c'est que le bullshit véritable ne fait jamais son autocritique. Bon, si vous me dites, je ne sais pas si j'ai jamais été libertarien ou pour la privatisation totale, c'est de la pensée bullshit. on s'aperçoit que dans des périodes de crise comme celle que nous vivons, le rôle de l'État est absolument indispensable. Donc le non-bullshitisme, c'est aussi de réviser constamment son auto-bullshitisme.
Vous, d'ailleurs, vous faites un peu de mea culpa sur le néolibéralisme que vous êtes arrivé de défendre.
Oui, je ne sais pas si je me suis trompé. Je crois que je me tromperais si j'étais néolibéral aujourd'hui comme je l'étais il y a 30 ans. Je pense qu'il y a 30 ans, il fallait l'être. Il faut aussi resituer les idées dans leur contexte. Il y a 30 ans, aujourd'hui, c'est très vieux de dire ça, mais l'URSS existait. Le programme socialiste de Mitterrand était délirant. L'inflation était de 40% par an. Donc il fallait.
Les taux d'intérêt étaient hauts.
Les taux d'intérêt ne permettaient pas de s'acheter un logement ou une bagnole. Bon. Donc il était important à l'époque de réagir contre le bullshitisme du temps, qui était ce qu'on appelle aujourd'hui le mitterrandisme. Ce mitterrandisme a totalement disparu. Donc les idées que je défendais hier, si je les défendais aujourd'hui, ce serait complètement bullshitique. Je suis d'ailleurs fâché avec les ultras et néolibéraux du jour qui continuent à parler comme si on était en 1980. Il s'est passé quand même en 40 ans beaucoup de choses qui m'ont fait... Encore une fois, échapper au bullshit, c'est pas dire qu'on a raison, c'est être capable de dire qu'on a tort.
La fin de l'histoire, par exemple, la thèse célèbre de Francis Fukuyama, on s'en moque depuis 20 ans. Vous dites que on ne devrait pas, elle est irréfutable à vos yeux.
Elle est au jour d'aujourd'hui irréfutable. Ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que depuis 1989, qui est le point de départ, c'est la thèse de Fukuyama, il n'y a plus qu'un seul modèle possible qui est la démocratie libérale et l'histoire est donc finie en termes idéologiques. Fukuyama, dans son livre, dit quand même qu'on ne peut pas empêcher que quelqu'un intellectuel un jour dans une alcôve écrive un livre qui va être le Capital et qui va complètement bouleverser la donne. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'existe pas d'alternative à la démocratie libérale de caractère universel. Vous prenez la Chine. La Chine prétend être un pays démocratique. Alors, elle ne l'est pas. Mais le fait même qu'elle le prétende démontre que intellectuellement, les dirigeants chinois n'ont pas trouvé un modèle universaliste et alternatif. Donc Fukuyama, aujourd'hui, a raison. Et dire qu'il a tort, c'est bullshitique.
Vous dites également, Guy Sormand, dans ce dictionnaire, que ce qui est nouveau, ça n'est pas la mondialisation, comme on n'arrête pas de le dire, c'est le repli national. C'est beaucoup plus récent, en fait.
Oui, la mondialisation, elle est vieille comme le monde. Enfin, je dis qu'à partir du moment où l'homme de Néandertal met un pied devant l'autre, la mondialisation a commencé. Donc, ce qui est assez récent, qui date de quoi ? D'une vingtaine d'années, hein, en fait. C'est le repli national ou repli tribal. Repli tribal, parce que ça va même au-delà du repli national. Vous prenez par exemple les mouvements autonomistes catalans ou écossais. Vous prenez aux États-Unis ce que fut le Trumpisme, c'est-à-dire le repli sur mon identité de mâle blanc. Tout ceci est assez neuf. Tout ceci est assez neuf. Alors, on l'explique de manière banale, mais sans doute juste, par la grande peur de l'ouverture des frontières et la peur du multiculturalisme et la peur du féminisme, la peur de l'égalité entre les sexes et entre les races. Je crois que c'est la peur de l'égalité entre les sexes et les races que chacun se replie sur ce qui lui paraît de plus précieux et qu'on ne peut pas lui arracher, qu'est son identité. Je suis un mâle blanc, j'ai un fusil, je vais chasser, je ne sais pas, le buffle dans l'Arizona avec mon chien, et ça, vous ne me l'arracherez pas. Vous voyez, c'est mon identité ultime. Je pense que c'est vraiment cette réaction de repli sur soi, parce qu'on a peur de tout. On a peur des femmes, on a peur des autres, on a peur de tout.
Mais quand vous dites que la mondialisation a toujours existé, il y a eu des frontières aussi, il y a eu des époques où le commerce était moins libre qu'aujourd'hui, où les échanges étaient moins faciles, non ?
Oui, non. Si vous regardez, les échanges, c'est tellement ancien. Je veux dire, la route de la soie, c'était il y a 2500 ans. Hein. Je veux dire, les Romains achetaient des produits en Chine. On découvre aujourd'hui en Alaska de la verroterie qui vient du bassin méditerranéen. Le 16e et le 17e siècle, avec la découverte des Amériques, est une période d'échange intense. Le 19e siècle est considéré comme la période d'or du libéralisme commercial. Il n'y a absolument aucune frontière. Les frontières, en fait, apparaissent après la Première Guerre mondiale. Vous savez, avant la Première Guerre mondiale, moi, j'avais professeur à Sciences Po qui s'appelait Raymond Barre, et il disait, vous savez, avant la Première Guerre mondiale, avec une carte de visite et des livres sterling, vous faisiez le tour du monde.
Stefan Zweig disait la même chose dans Le Monde d'hier.
Stefan Zweig disait la même chose, c'est-à-dire que l'idée de frontières, nations, votre passeport, vos tampons, etc., c'est 1920. Donc c'est quand même, dans l'histoire du monde, c'est pas grand-chose.
Merci Guy Sorman. Mon dictionnaire du bullshit, ça vient de paraître chez Grasset.
Europe 1.
C'est arrivé demain est terminé. On se retrouve samedi prochain. Dans quelques minutes, ce sera le grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos, présenté par Mickaël Darmon. Vous recevez Nicolas Dupont-Aignan.
Nicolas Dupont-Aignan, donc président de Debout la France, candidat à l'élection présidentielle, gaulliste classique. On verra s'il pratique la politique de la chaise vide pour 2022.
Bonne émission, Mickaël.
Europe 1, 9h, 10h. C'est arrivé demain.